L'info du jour avec aujourd'hui Nicolas Humbert de l'organisation Green Cross pour parler de son livre « Plaidoyer pour un monde plus durable » aux éditions David Reynarc. Nicolas Humbert, vous serez un des participants de la prochaine étape du Tour de France Green Tech qui se tiendra à Courchevel et vous soutenez la cause d'un monde plus durable à travers l'organisation Green Cross dont nous avons déjà parlé sur cette antenne à l'époque où Anja Freindorf présentait son exposition sur les glaciers nus à Courchevel. Alors tout d'abord, un rappel de ce qu'est Green Cross, et surtout, comment est né ce mouvement ?
Green Cross est né en 1992, au moment du sommet de Rio, où 146 chefs d'État étaient en train de se poser la question des bonnes solutions à apporter face aux dérèglements climatiques. Et Mikhail Gorbatchev, qui n'était déjà plus président de l'URSS, mais qui modérait les débats, rencontre pendant la préparation de la conférence de Rio le commandant Cousteau, et les deux se rendent compte de l'urgence à agir concrètement sur les territoires pour avoir à la fois un environnement préservé, mais aussi avec la finalité d'une humanité préservée. C'est comme ça que Gorbatchev décide en 1993 de créer, à l'image de ce que la Croix-Rouge avait fait dans le domaine social, une organisation focalisée sur l'environnement, la Croix verte de l'environnement, Green Cross. Donc nous allons en 2023, cette année, fêter notre 30e anniversaire et plus que jamais motivés pour cette raison d'agir concrètement sur l'urgence écologique sur les territoires et notamment dans des zones en jeu comme peuvent être le littoral ou les zones de montagne extrêmement affectées par le dérèglement climatique.
Green Cross œuvre dans une trentaine de pays. Vous dirigez l'association française. Comment s'organisent vos relations avec notamment les organisations gouvernementales ?
Eh bien, ce sont des relations qui sont focalisées sur des projets concrets pour montrer effectivement qu'on peut agir maintenant, qu'il est important de changer l'échelle dans l'action, que bien sûr les petits gestes comptent, mais qu'on doit être préparé collectivement à faire évoluer nos comportements pour répondre à ce changement climatique qui nous oblige tous. Et on va publier des rapports, travailler pour définir des priorités, interpeller les dirigeants, accompagner certains dirigeants de bonne volonté. Et par exemple, on a contribué en Nouvelle-Calédonie à faire reconnaître l'urgence écologique par le Congrès de Nouvelle-Calédonie qui vote à l'unanimité de ses membres. Et ensuite, à mettre en place un plan de résilience territoriale sur lequel tout le territoire des îles Loyauté, qui est une des trois provinces de Nouvelle-Calédonie, s'engage. Donc ça, c'est extrêmement concret. Et l'autre chose de très concrète que l'on fait, c'est de travailler sur des projets pour changer d'échelle. Par exemple, mieux manger chaque jour, qu'on a eu l'occasion de travailler avec la restauration collective, l'urgence de la transformation énergétique. Et depuis 2 à 3 ans, on travaille aussi sur les priorités pour faire face au changement climatique dans les stations de montagne. On sait aujourd'hui à quel point, en regardant à l'extérieur, c'est important de préparer maintenant pour aujourd'hui et pour demain.
Alors précisément, est-ce que il vous semble que les mentalités sont en train de se transformer dans notre pays ?
Énormément. Si vous vous souvenez, dans les années 2000, on était toujours en train de dire qu'on allait agir pour les générations futures, que nous ça allait, mais que ce qui était important, c'était les générations futures. Depuis que le Covid a émergé, on a entendu en fait 3 mouvements très importants. La première question, notamment venant de la jeunesse et bien au-delà du mouvement inspiré par Greta Thunberg, c'est de se poser la question, comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné et comment est-ce qu'on réoriente le navire ? Le deuxième sujet, c'est la pression du quotidien. Quand on voit effectivement qu'on est entré dans le monde de l'énergie chère et que ça n'est pas prêt de terminer, qu'aujourd'hui on a différents problèmes sur des pénuries alimentaires, sur le blé, sur le citron, sur la tomate qui sont en train de rentrer dans notre quotidien et qui sont liés aux effets du dérèglement climatique, que nos comportements même touristiques font qu'on va peut-être changer de destination, changer de mode de voyage, changer de temps de voyage, on se rend compte que des changements qui étaient perceptibles et intellectualisés deviennent des choses extrêmement concrètes. Et c'est pour ça aussi que quand j'ai écrit mon ouvrage, je l'ai écrit pour qu'il soit l'ouvrage préfigurateur d'une collection « Repenser la planète, penser » avec un A. parce que bien sûr, il s'agit de penser et d'avoir
bien
des
réfléchir,
idées.
D'y réfléchir et d'agir, hein, en gros.
Ah, parce absolument.
Que, donc je le dis, en décembre, vous avez sorti Plaidoyer pour un monde plus durable, et avec ce livre, il s'agit bien entendu pour vous d'établir un constat, mais aussi et surtout d'étudier les pistes qui sont devant nous, c'est bien ça ?
Absolument, et de montrer à quel point c'est dès maintenant qu'on peut agir et changer d'échelle. La question de la transformation énergétique, d'arriver à retravailler sur la sobriété, de multiplier les sources d'approvisionnement, de faire en sorte que le solaire, l'éolien, peut-être la biomasse rentrent encore plus dans notre quotidien. On est vraiment sur des choses extrêmement concrètes. Sur l'alimentation, chacun peut agir et beaucoup se sont mis à retravailler leurs pratiques culinaires, à faire attention à tout ce qui touche à la santé et à l'alimentation. Certains ont retravaillé aussi leur potager, sont allés sur des composts plus généralisés, et on voit se développer de plus en plus des filières courtes entre des agriculteurs, des transformateurs de proximité et une capacité à commercialiser ces produits dans des restaurants qui deviennent des ambassadeurs de leur territoire. Et ça, c'est un message, par exemple, essentiel. Le troisième sujet sur lequel on a un petit peu plus de mal à rentrer, c'est tout ce qui touche à la transformation de nos modes de vie. Et là, je montre que c'est aussi par l'enthousiasme, en menant les gens vers des projets concrets, en leur expliquant qu'il y a des innovations utiles qui sont d'ores et déjà disponibles, qu'on peut y aller.
Vous évoquez très souvent la sortie de l'économie grise pour entrer dans une économie plus verte. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Expliquez à nos auditeurs ce qu'est l'économie grise face à l'économie verte.
En fait, tout le 19e et le 20e siècle se sont construits sur un rapport où on est allé chercher les énergies faciles. Je prends le mot à mon ami Stéphane Linou, mais ces énergies fossiles, c'était avant tout des énergies faciles. L'accès était relativement rapide, l'énergie était peu chère, et les externalités, la pollution qui était générée, ne posait pas plus de problèmes que ceci.
D'ailleurs, Jean-Marc Jancovici fait un tabac avec sa BD sur le thème.
Tout à fait. La BD, l'Eratome, on se rend compte aussi que sur ce sujet, il est important d'avancer, il est important de comprendre, et vous le disiez tout à l'heure, de lier le temps de la compréhension au temps de l'action immédiatement. Et la sortie de l'économie grise, c'est ceci. Ça ne va pas être un Big Bang où on va tout changer et où 100% de l'économie demain matin va être complètement neutre
déjà
en carbone ou renouvelable.
Personne ne le souhaite vraiment d'ailleurs, enfin, en tout cas très peu de gens souhaitent que tout s'effondre.
Souvent, on souhaite avec notre tête le meilleur. On n'a surtout pas envie que les choses s'effondrent et on a envie que rien ne bouge. Et quand il s'agit de payer, on n'a pas envie de mettre un centime de plus. Maintenant, ce qu'on est en train de voir arriver avec la situation économique que l'on connaît, c'est que les choix additionnels ne marchent plus. Il faut arriver à faire des choix structurants, à définir des priorités, à se positionner par rapport à ces priorités. Et des grands acteurs de l'industrie ont déjà, depuis longtemps, travaillé sur cette transformation. Green Cross, par exemple, a été extrêmement impliqué pendant plus de 10 ans à la communauté urbaine de Dunkerque pour aider à passer d'une économie mono-industrie et ultra dépendante de l'acier et des énergies fossiles à une économie plus diversifiée. Ça montre que dès lors qu'on investit bien à l'échelle d'un territoire, ça marche. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs économiques qui relèvent de la banque d'affaires ont compris et se sont investis dans cette transformation où d'un côté, on va chercher les pépites et les entreprises qui feront la transformation écologique de demain, et d'un autre côté, on accompagne des entreprises qui sont ancrées dans cette économie grise et qui ont parfaitement réussi dans cette économie grise à se transformer en profondeur pour devenir ceux qui vont soutenir la transformation aujourd'hui et demain.
Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ils pourront lire Plaidoyer pour un monde plus durable aux éditions David Reynarque. Merci Nicolas Imbert d'être venu en cette journée pour nous parler de développement durable.
Ravi, merci, à bientôt.